Bonsoir tout le monde si vous nous écoutez aux environs de 18h ou bonjour tout le monde si vous écoutez la rediffusion du matin ou du midi. 282 000 gilets jaunes d'après Le Monde occupaient les ronds-points de France le samedi 17 novembre pour dénoncer la hausse des taxes sur le carburant décidée par le gouvernement d'Édouard Philippe. Depuis le 17 novembre, des manifestations se déroulent en province et à Paris tous les samedis. Fin décembre, les gilets jaunes ont évacué les ronds-points de gré ou de force. Samedi dernier, le 13 avril, le 22e acte des gilets jaunes réunissait 31 000 manifestants en France, toujours d'après Le Monde. Enfin, Emmanuel Macron s'est exprimé deux fois depuis le palais de l'Élysée, entre le 17 novembre et aujourd'hui, une première fois le 10 décembre pour tenter de désamorcer la crise, et une deuxième fois ce mardi, suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris, dans une allocution riche de sous-entendus. Sandy, Sandrine, Patrick, Jean-Michel, bonjour.
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 Vous êtes ce qu'on appelle des gilets jaunes et vous êtes venu nous parler de ce mouvement, de vos réunions hebdomadaires et surtout du local dans lequel vous vous réunissez, local qu'on vous demande de quitter au plus tard ce vendredi. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations et nous raconter un peu l'histoire de ce local ?
Donc ce local nous a été prêté par la mairie du Sel depuis le mois de janvier à peu près, enfin fin décembre exactement. Donc il y avait eu un contrat qui avait été un peu établi avec la mairie. Comme quoi, on avait ce local pendant 3 mois. Il savait très bien que ce local était un peu loin de tout, mais il s'était engagé à nous dire, à nous trouver un nouveau local pendant les 3 mois. C'était ce qui avait été entendu en décembre. C'est-à-dire qu'au fin mars, on devait laisser ce local et intégrer un nouveau local qu'il nous proposait. Donc le temps a avancé et au fur et à mesure, on n'avait pas de local, toujours pas de local. Et avant-dernière réunion qu'on a eue avec la mairie, ils devaient peut-être nous prêter un terrain, mais surtout pas le local, il n'y avait pas de local de disponible. Donc ils étaient engagés à voir pour 2 terrains et à nous proposer un entretien avec aussi le département pour voir ce qu'on pouvait faire au niveau du département. Et aux dernières nouvelles, il n'y a ni terrain ni local. Voilà. Et depuis, hier, les gens qui avaient signé la convention pour la salle de Ponty, parce qu'il y avait une convention de signer, normale au niveau des responsabilités, et cette convention est signée par 4 personnes, et les 4 personnes ont reçu un recommandé hier, leur demandant de quitter les lieux dans les 48 heures. Sinon, il y aurait un arrêté d'expulsion qui serait mis en place, voire des poursuites pour ces gens-là, quoi. Mais bon, nous avons décidé de partir avant vendredi soir, et donc il n'y aura pas de soucis au niveau pénal.
Vous avez pris la décision de quitter le local vendredi soir au plus tard ?
Tout à fait.
Comment ça s'était passé, les rapports avec la municipalité du Sel ? Comment vous avez obtenu ce local sur le camping du Sel ?
Oui, ce local, il a été obtenu lorsque la décision de la 23 avait été prise d'évacuer le rond-point que nous occupions. Et donc le maire s'était engagé à nous proposer une alternative, ce qu'il a fait. Nous avions signé une convention avec lui. Par la suite, il n'a pas du tout tenu ses engagements, à quelque niveau que ce soit, ce que vous a déjà expliqué Patrick, plus le fait qu'on avait demandé à rencontrer M. Coste, puisque l'ancien tribunal d'instance du Sel est disponible et qu'il appartient au département, et M. Arfeuillère s'était engagé à ce qu'on rencontre M. Coste et il n'a rien fait. Je ne suis même pas sûr qu'il en ait parlé.
Pascal Coste, le président du département de la Corrèze.
Absolument.
C'est les seuls contacts, les seuls rapports que vous avez eus avec Christophe Arfeuillère. Vous l'avez rencontré en personne ? Comment ça s'est passé ?
Oui, on l'a rencontré en personne régulièrement. On était régulièrement en contact avec lui. On a eu quelques réunions pour parler de la salle à chaque fois. Hein. Et donc, on voyait qu'à chaque fois, la date, elle se rapprochait, la date de fin, et qu'on n'avait rien de proposé au niveau local. On espérait au moins un terrain. Parce qu'après, on vous parlera de notre objectif, du pourquoi on veut une salle ou un terrain. C'est pas pour le plaisir d'avoir une salle ou un terrain, vous allez voir, il y a un projet derrière qui est construit et qui est concret, quoi. Voilà.
Alors justement, parlons de ce projet. En quoi c'est important pour vous d'avoir une salle pour vous réunir et pas simplement une salle que vous réservez pour vous retrouver toutes les semaines ?
Alors, c'est important qu'on ait une salle eh bien, déjà pour se réunir pour les décisions, pour comprendre ensemble sur nos actions, sur mais aussi sur les manifestations auxquelles on va participer, sur les différentes les différentes revendications qu'on a aussi, on discute, on en rediscute régulièrement. Sur les projets, ben, il y a le projet santé, il y a plusieurs projets en cours qui sont en train de se monter petit à petit. Donc on a besoin d'un point, quoi, en fait, où se rassembler tous, où se retrouver, et où on puisse avancer, en fait, dans nos projets, quoi, en fait.
Voilà. Je pourrais vous répondre, je me fais l'avocat du diable, que vous pourriez parfaitement réserver un créneau toutes les semaines pour une des salles dont dispose la mairie du Sel. Quelle différence entre se réunir une fois par semaine dans une salle sur un créneau précis et avoir une salle à disposition toute la semaine, 24 heures sur 24?
Ben, la différence, elle est simple, c'est que l'objectif qu'on a en vue, c'est la création d'une maison du peuple. Donc un lieu d'accueil régulier, quoi. Et une salle, certes, c'est bien pour faire les réunions, il n'y a pas de problème, mais par contre, pour faire de l'accueil, pour justement accueillir toutes les revendications des gens, pour créer un lieu de démocratie locale, quoi. Et nous, notre objectif, il est vraiment là, c'est-à-dire de créer ce lieu-là où les gens pourraient venir parler, venir revendiquer, venir vraiment parler de problèmes locaux, quoi. C'est cette maison du peuple qu'on souhaite créer, quoi.
C'est pour ça que vous avez besoin d'un lieu qui puisse être ouvert 24 heures sur 24 et non pas d'un créneau par-ci par-là dans une salle de réunion.
Tout à fait, oui.
Oui, c'était aussi parce que à travers le projet de création de Maison du Peuple, qui est tout à fait en cohérence avec ce que vient de décider l'Assemblée des Assemblées à Saint-Nazaire, hein, qui demande à ce que la plupart des sections de Gilets jaunes créent ces Maisons du Peuple pour proposer une alternative réelle à l'écoute de leurs revendications. Il y a le fait que nous avions décidé de créer des groupes de travail. Pour le moment, il y en a un de créé, trois sont en cours, et que tout ce travail-là demande à ce qu'on ait un lieu permanent où on n'ait pas à avoir le souci de planifier. Il y a une certaine spontanéité aussi des choses qui est importante lorsqu'on dispose d'une salle permanente.
Vous l'avez dit, vous allez quitter la salle du camping du Sel, la salle du camping de Ponty, sauf changement de décision du côté de la mairie du Sel. Vous avez une idée de où vous allez vous réunir par la suite ? Vous avez une idée de la suite des événements ?
Pas du tout, on vient justement de passer une annonce sur notre page Facebook pour chercher un terrain ou un local, parce que la mairie nous propose un planning pour pouvoir avoir des salles pour des réunions, mais pas de local, et nous on veut vraiment le système d'un local pour la Maison du Peuple, et pour pouvoir vraiment faire nos groupes de santé ou nos groupes activement, et pour recevoir les gens aussi, et leur donner aussi des informations sur le mouvement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant du tout de ce qui se passe vraiment, quoi.
Et depuis que vous avez reçu ce courrier, ce recommandé de la mairie du Sel, vous avez essayé de contacter Christophe Arfeuillère ou d'autres conseillers municipaux ?
Non.
Pour quelle raison particulière ?
Non, mais déjà parce que c'est très court. Le recommandé a été reçu hier, toi. Donc on a fait notre assemblée populaire comme tous les mercredis. Hier soir, on a fait ça encore à la salle de Ponty, comme on y était encore. Et on a pris quelques décisions. Nous, ce qu'on est en train d'essayer de voir, c'est que comment... comment faire à l'avenir pour avoir cette maison du peuple, et surtout comment faire en attendant de trouver ce local-là, quoi. Et donc on a pris des décisions hier soir qui pour nous permettre d'attendre cette décision-là, quoi. Mais pour l'instant, on n'a pas encore vu le maire ni ses conseillers, même si on doit les voir, parce qu'il nous a demandé d'établir un planning de réunion, justement en attendant, ça va peut-être être la solution de faire des réunions dans les salles, et on va établir un planning et lui proposer. Donc certainement qu'on va aller le voir.
Oui, enfin, on perçoit bien, en tout cas, de la part de la plupart des municipalités, en tout cas de celle du Sel, puisqu'on va parler de celle-là, la volonté de d'être de moins en moins conciliant, si je peux mettre conciliant entre guillemets, envers les Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on a envie que ce mouvement disparaisse assez rapidement et qu'on fera tout pour lui couper l'herbe sous les pieds. Or, ce mouvement ne l'entend pas de cette oreille. Il continuera le combat, dans la rue s'il le faut, hein, comme la fameuse chanson « Joli môme », c'est dans la rue que ça se passe. Eh bien, ça se passera dans la rue si on n'a pas d'autre alternative. Ça se passera dans le rapport de force si on n'a pas la possibilité de créer autre chose, parce que tous ces gens-là vous parlent de dialogue, mais c'est M. Arfeuillère qui a coupé court par mail ou par SMS, je ne sais plus, au dialogue. Hein. Bon, probablement qu'il cherche une investiture quelconque et qu'il a besoin d'apparaître comme moins conciliant avec nous. Enfin, peu importe ses motivations, il a coupé le dialogue et nous, on est prêts à continuer à faire exister ce mouvement et à apporter aux populations le soutien et l'écoute auxquels ils ont droit et que ces messieurs, malheureusement, ne leur apportent plus.
Vous savez si cette salle dans laquelle vous vous réunissez doit recevoir une activité prochainement, est-ce qu'il y a une raison qui a été mise en avant ?
Ben, la raison, c'est que c'est quand même le local collectif du camping et qu'on arrive au beau jour et que, bien évidemment, il faut que le camping récupère ces lieux-là. Et ça, on en était conscient depuis le début, hein, parce que comme c'était qu'une salle temporaire justement jusqu'à fin mars, c'était assez compréhensible qu'on puisse avoir cette salle, parce qu'elle était complètement inoccupée pendant ces 3 mois-là. Quoi. Sauf que là, il y a des travaux à faire, un peu de rénovation à faire pour accueillir les gens au niveau du camping. Donc c'est pour ça qu'on doit laisser la salle. Mais ça, par contre, on en est conscient, quoi. On n'est pas dénué de bon sens.
Jusqu'à présent, on a tenu notre promesse envers le maire. On a toujours été « cool », entre guillemets, ce qui n'est pas le cas de sa part, quand même. Par rapport justement au local, parce qu'il nous avait promis, peut-être c'était un accord tacite, mais il nous avait promis quand même de nous trouver quelque chose pour la fin mars. Et là, il ne nous a rien trouvé.
Vous avez connaissance d'autres locaux dans Ussel qui appartiennent à la municipalité et qui pourraient, dans lesquels vous pourriez vous réunir ?
Oui, mais alors après, voilà, le truc, c'est que comme on veut accueillir du public, il y a une question de normes pour l'accueil public. Et ça, on nous le met tout le temps devant le nez. Comme quoi, il y a beaucoup de locaux qui sont pas aux normes, ce qui est vrai. Et donc, on avait, nous, en vue les pompiers, mais les pompiers, le truc, c'est que le local des pompiers, tu sais où il y avait les pompiers avant, dans le centre-ville. Et ce local-là va être occupé après, certainement, par l'école de musique. Donc là, c'est pas possible parce qu'il y a un projet dessus, quoi. Après, ça pourrait peut-être être l'école de musique, l'ancienne école de musique, justement. On ne demande pas grand-chose. À l'école de musique, il y a un rez-de-chaussée avec une grande salle et les toilettes. Donc, même sans accès à l'étage, ça nous convient très bien, quoi, par exemple. Mais je suis sûr qu'il y a peut-être un ou deux locaux ailleurs qui pourraient nous satisfaire, quoi. Et surtout des terrains, quoi.
Alors parlons un peu maintenant de ce à quoi vous servez cette salle. Vous réunir de façon hebdomadaire tous les mercredis à partir de 18h30. Au-delà des réunions, qu'est-ce qui se passait dans cette salle ? Qu'est-ce que vous décidiez ?
Il y avait l'accueil des gens, parce qu'il y a des gens qui venaient quand même nous voir. On a eu la création du groupe santé qui s'est fait là-bas, des réunions pour le groupe santé qui s'est fait là-bas. Quelques organisations de manifestations qu'on a pu faire à Ussel ou même celles qu'on a fait à Bord. On reçoit d'autres gilets jaunes aussi qui viennent d'autres endroits. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Ça nous fait quand même vraiment. C'est beaucoup de l'accueil et ouais, voilà.
On peut peut-être revenir sur une des actions que vous avez menées il y a bientôt presque 15 jours, une manifestation organisée à Bord-les-Orgues. Comment ça s'est passé ? Comment vous l'avez décidé ? Et quel enseignement ?
On a constaté, comme tout le monde, que le pouvoir était en train de vendre la France à la découpe, que c'était quand même important de garder des choses comme les barrages notamment. Vous savez, il y a une très jolie phrase qui dit « quand tout sera privé, on sera privé de tout ». Donc je pense que voilà, on a intérêt à garder un secteur public efficient. Et dans cette perspective-là, il y a eu un appel national de lancer pour essayer de défendre nos barrages. Et en l'occurrence, il y a un barrage à Bord. Donc on a organisé avec l'ensemble d'autres gilets jaunes hein, qui venaient, ceux de la montagne, de Hyde, de Tulle. Enfin, il y avait des gens qui venaient d'un peu partout. J'en oublie sûrement. Cette manifestation a été un succès en dépit de la timidité des élus bourtois qui ne se sont pas tellement menés à ça, même si on a appris par la suite que la maire de Bord, avait pris position contre la privatisation du barrage.
On parle beaucoup du mouvement des Gilets jaunes. On s'intéresse finalement assez peu aux personnes qui composent ce mouvement. Sandy, Sandrine, Patrick, Jean-Michel, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a donné envie d'enfiler ce fameux gilet jaune ?
Alors moi, ce qui m'a donné envie, c'est surtout me battre pour la dignité humaine, pour que tout le monde puisse vivre dignement et sans avoir à faire la mendicité à quelques-uns dans notre gouvernement. Les gens, il y en a, ils peuvent pas travailler pour des problèmes de santé, il y en a, ils peuvent travailler, il y en a... Bon, je pense qu'il y a de l'argent, mais il est mal réparti et il n'est pas réparti auprès des personnes qui travaillent. Parce que tous autour de la table, je pense qu'on a eu ou qu'on a un travail actuellement, quoi. Et on mène tout de front pour essayer de se battre justement pour tout le monde. Et dans les Gilets jaunes, moi, je trouve qu'on a retrouvé quand même de la solidarité entre nous. Même les gens qui ne sont pas forcément Gilets jaunes, qui amènent spontanément des choses ou qui viennent nous dire « Continuez, on vous soutient » et tout ça. Donc, je pense que c'est un tout, quoi, en fait, qui a fait que depuis le 17, eh bien, on est là et on restera là le temps qu'il faudra.
Patrick, Jean-Michel, Sandy, qu'est-ce qui vous a donné envie ? Qu'est-ce qui fait que vous portez aujourd'hui le gilet jaune ?
Déjà, Sandrine a dit beaucoup de choses pour commencer, mais la plupart, on est là depuis le 17 novembre au niveau du sel. Hein. Même avant, on était à la réunion qui était avant. Je suis venu là au début par curiosité, parce que moi, je pense qu'il y a besoin réellement d'un changement. Un changement, c'est surtout pour l'avenir. Moi, j'arrive à un âge où j'ai quand même fait pas mal de choses. Et donc, du coup, je prévois aussi pour mes enfants et pour les jeunes, quoi. Pour l'avenir, au niveau environnemental, déjà, il y a beaucoup de choses à faire. Parce que même si les gens disent que les Gilets jaunes ne parlent pas trop des problèmes environnementaux, ils en parlent beaucoup, beaucoup sur les ronds-points. C'est un des problèmes que l'on soulève. D'ailleurs, nous, on a un groupe qui est en train de se monter, qui est écologie et transport. Donc, c'est pas rien. C'est vraiment des choses sur lesquelles on va travailler et sur lesquelles on s'intéresse beaucoup. Et j'ai senti qu'il y avait une sacrée dynamique au niveau des Gilets jaunes. C'est cette dynamique qui m'a plu, qui m'a permis de rester dans ce mouvement-là. Moi, à la rigueur, je pourrais rester chez moi et vivre tranquillement ma vie, quoi. Je me suffis de ce que j'ai, donc il n'y a pas de problème. Mais j'ai envie quand même de faire bouger les choses pour les gens de demain et pour l'avenir de notre pays, mais surtout de la planète, quoi. Et donc c'est un peu pour ça que je me suis accroché tout ça. Comme disait aussi Sandrine, j'ai rencontré pas mal de gens que je ne connaissais pas sur ce rond-point, avec qui j'ai sympathisé, et j'ai envie de bosser avec eux pour faire avancer les choses aussi. Je trouve que le mouvement est sain. Après... Le mouvement, c'est dit apolitique au départ, ça serait plutôt apoliticien, quoi. On fait de la politique en soi au niveau des Gilets jaunes. Hein. Mais par contre, c'est vrai qu'et puis on le voit, c'est difficile de travailler avec le système actuel. Mais ça se comprend aussi par rapport aux gens qui sont dans ce système-là. Hein. Ils sont embrigadés dans leur système, ils ne peuvent pas trop en sortir. Et nous, c'est ce qu'on voudrait changer. Donc il va falloir qu'on travaille vraiment en parallèle de ce système-là, quoi. Voilà.
Sandy, Patrick, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce pourquoi certains ont enfilé le gilet jaune le 17 novembre et le portent encore aujourd'hui, mi-avril ?
Il y a les conditions de travail. Enfin, moi, je sais, je fais UCL Bord tous les jours. Quand on voit le prix de l'essence et quand on voit le trajet qu'on fait, c'est pas possible, quoi. Pour le peu qu'on ait payé, pour tout ce qu'on bosse, mettre autant d'essence, c'est pas possible. De base, c'était vraiment... Je pense que le carburant a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et moi, c'est ça aussi qui m'a poussé à y aller. Je suis jeune, je vais bosser tous les jours, mais franchement, j'ai pas envie de payer aussi. Enfin, il faut que ce soit coordonné, qu'on puisse bosser correctement, avoir un salaire correct et payer correctement aussi derrière. On peut pas payer plus cher et travailler plus pour gagner moins. Ça, c'est pas possible. Pour moi, c'était pas possible.
Ben moi, j'ai rejoint les Gilets jaunes après quelques réticences, mais j'ai un parcours de syndicaliste dès mon adolescence, avec le syndicalisme étudiant, puis après dans ma profession, pour faire un constat que finalement, dans le système tel qu'il est organisé, c'est en permanence une prescription de non-changement. C'est-à-dire il peut rien y avoir qui évolue avec nos élections, notre organisation qui rythme la vie soi-disant démocratique. Je pense que la révolution des Gilets jaunes, c'est que les citoyens sont maintenant vraiment au centre du dispositif, et ce n'est pas un slogan, et qu'ils veulent justement pouvoir participer à tout moment et ne plus être tenus à l'écart de l'ensemble des décisions. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Et on veut inverser un peu le système des valeurs qu'on a subi jusqu'à aujourd'hui et qui a conduit à l'état d'où est ce pays et d'où est l'Europe depuis une quarantaine d'années. Donc maintenant, il va falloir faire forcément autre chose. Alors c'est difficile, la démocratie c'est compliqué, hein. C'est sûr que c'est plus compliqué que la dictature. Il y a des foires d'empoigne, il y a des désaccords, mais je pense que c'est tout à fait sain. Et ça va permettre à chacun de trouver sa place pour proposer autre chose que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant.
Ce samedi aura lieu l'acte 23 du mouvement des Gilets jaunes. Vous allez y participer ou votre priorité aujourd'hui, c'est d'abord de trouver un local?
La priorité est de trouver un local, ça c'est clair. Enfin, au niveau du CEL en tout cas. Mais ça n'empêche que certains seront sur Paris samedi. On a toujours mené de front et le combat local et le combat national. Donc on continue dans cette optique-là, quoi.
Pour prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur, Emmanuel Macron a fait une première allocution le 10 décembre dans laquelle il annonçait jusqu'à 100 euros d'augmentation de la prime d'activité, une annulation de la hausse de la CSG pour les retraités touchant moins de 2000 euros par mois et une défiscalisation des heures supplémentaires. Il aurait dû prendre la parole ce lundi, mais il a annulé son allocution suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Mais les annonces ont fuité. Il aurait dû annoncer une baisse des impôts des classes moyennes, une réindexation sur l'inflation des retraites de moins de 2000 euros à partir du 1er janvier 2020, un moratoire sur les fermetures d'écoles et d'hôpitaux jusqu'à la fin de son quinquennat, une version locale du RIC, des référendums d'initiative citoyenne, mais uniquement dans une version locale, une version simplifiée du référendum d'initiative partagée, une suppression de l'ENA, l'École nationale d'administration, et enfin la création d'une convention de 300 citoyens tirés au sort, une convention pour travailler à la transition écologique et aux réformes concrètes à prendre. Ces mesures vous parlent? Est-ce que vous donnez crédit à certaines d'entre elles ou non?
Non, enfin, pas trop. Pas déjà, s'il y a pas mal de choses qui sont pas dites dans son allocution. Par exemple, l'histoire de la réindexation des retraites, c'est quand même quelque chose qui est imposé par le Conseil constitutionnel pour 2020, quoi. C'est pas quelque chose qu'il a pondu comme ça. Ça lui était déjà, de toute façon, il aurait dû le faire. Donc, c'est pas une mesure supplémentaire par rapport à ce qu'il pouvait faire. Donc, c'est un exemple de ce qui est fait par Macron. C'est qu'à chaque fois qu'il annonce des choses, il dit pas vraiment tout ce qu'il y a derrière, quoi. Quand il avait annoncé les 100 euros d'augmentation du SMIC le 10 décembre, par exemple, c'était une belle aberration. Mais c'est son jeu à lui, c'est sa stratégie. Après, il faut la prendre telle qu'elle est, quoi. Nous, on oublie quand même des gros points. On parlait d'augmentation réelle des retraites, on parlait d'augmentation réelle du SMIC, de tout ça, et on n'en entend pas du tout parler, quoi. C'est vraiment des choses qui sont pas claires par rapport à nos revendications. On parlait de rééquilibrage par rapport à la répartition des richesses. Franchement, il n'y a pas grand-chose là-dessus non plus. Le RIC local, à la rigueur, c'est peut-être le truc. Et encore, il faut voir les modalités dans lesquelles il va les inscrire. On a un petit exemple. Vous voyez, s'il y avait vraiment une volonté de mettre des RIC locaux à aujourd'hui, il y a un exemple encore qui est tombé hier. Vous voyez, on a des collègues qui sont dans le Cantal qui ont fait toutes les démarches pour lancer un RIC municipal et ça leur a été refusé officiellement par le conseil municipal. Donc vous voyez, on est loin de l'approbation des élus locaux par rapport à ça aussi, quoi. Donc franchement, là ça répond pas du tout à nos revendications. Après, les gens vont dire ouais, mais ils peuvent annoncer ce qu'ils veulent et ils seront jamais d'accord. Mais non, on a des revendications écrites. S'ils répondent aux revendications, on sera content. Mais à mon avis, on aura du mal, quoi.
Je le disais, le 17 novembre, on trouvait 282 000 manifestants, disons 300 000. Samedi dernier, 31 000. Comment vous interprétez ces chiffres?
Ces chiffres, d'abord, je ne sais pas d'où ils sortent, ces chiffres. Vous savez, le langage des chiffres, ceci de commun avec le langage des fleurs, qu'on peut lui faire dire ce qu'on veut.
C'est des chiffres qui viennent du Monde.
Ouais, bon, voilà, donc Le Monde aujourd'hui est un journal macroniste, donc méfiance quant aux chiffres et d'où il les sort. La mobilisation partout, elle continue. On en parle de moins en moins dans les médias qui, je vous apprends rien, sont à la solde du pouvoir, puisque dirigés par 7-8 milliardaires qui possèdent 90% des médias. Donc non, il n'y a pas... Il y a la crainte d'une répression qui est de plus en plus féroce. Hein. On a vu tous nos collègues blessés, perdre des yeux, perdre des mains dans des manifestations. On a vu Castaner qui a été en dessous de tout, mais quand vous mettez des voyous au pouvoir, ben, faut pas vous étonner qu'ils se comportent comme des voyous. Donc ça peut ralentir un peu, mais si vous voulez, le fond de mécontentement... Et le fonds de mobilisation, il reste toujours là. Et il y aura, vous le verrez dans les semaines à venir, d'autres moyens de se mobiliser encore très fort. D'autant que pour répondre à votre question précédente, ce que propose Emmanuel Macron est une pantalonnade de plus qui ne répond absolument pas aux revendications des gens. Il n'a rien entendu de ce qui se passe depuis 5 mois ou n'a rien voulu entendre.
En parlant d'événements à venir, dans une quinzaine de jours, ce sera le 1er mai. Ça peut provoquer un nouvel élan pour ce mouvement des Gilets jaunes ?
Moi, je pense que oui. Il y a beaucoup de gens qui, justement, disent que ça changera du samedi et ça peut donner, justement, ouais, une puissance, je pense, qui peut être pas mal. Après, c'est à voir, mais...
Oui, en plus, le 1er mai, c'est quand même une date importante dans tout, pour tout militant, quoi. Et donc, il y aura pas mal de militants qui seront déjà dans la rue. Et il y aura un gros appel qui va se faire sur Paris, bien sûr, le 1er mai. Donc, nous, déjà, au niveau de notre région, il y a beaucoup de gens qui vont monter là-haut. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir du monde dans les rues le 1er mai.
Sandy, Sandrine, Patrick, Jean-Michel, je rappelle que vous êtes des Gilets jaunes membres de la 23. En référence à la sortie numéro 23 de l'autoroute 89 qui passe à côté de Meymac et du Sel, vous vous réunissez tous les mercredis dans une salle que vous avez mis à disposition la municipalité du Sel, municipalité qui vous demande aujourd'hui par recommandé de quitter les lieux en moins de 48 heures. Vous voulez dire un mot peut-être à Christophe Arfeuillère si jamais il nous écoute ?
Moi, ce que je lui demanderais, c'est de tenir sa promesse du départ. Tout simplement.
Oui, Sandrine a raison. C'est bon, et c'est vrai qu'il y avait ce délai de 3 mois pour trouver une salle. S'il nous la trouve la semaine prochaine, on ne lui en voudra pas, quoi.
On n'est pas fermé au dialogue. Au contraire, même un rendez-vous ou quoi avec lui, on accepterait volontiers d'y aller, je pense.
Oui, contrairement à ce qu'il a pu dire, nous ne sommes effectivement pas fermés au dialogue. C'est lui qui a pris des engagements qu'il n'a pas tenus. Bon, voilà. À lui de rectifier le tir et de nous proposer quelque chose.
Vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on mette un terme à cet entretien ?
On tient à remercier Radio Vassilière, ça c'est sûr, de nous avoir invités et de nous avoir suivis depuis le début. Il y a d'autres journalistes qui nous ont suivis, mais Radio Vassilière, c'est vrai que c'était un bon point pour nous et franchement merci. Quoi. Et juste donc le mercredi prochain sur Ussel. Mercredi ou jeudi, mais ça sera annoncé officiellement sur Facebook et sur d'autres supports. Il y aura une assemblée populaire interrompue, comme on fait tous les mois. Voilà.
Vous pouvez redonner l'adresse de votre page Facebook pour si jamais on veut s'intéresser à l'actualité de vos réunions, de
c'est
vos actions.
Colère corésienne.
Si jamais un particulier avait envie de vous contacter pour vous proposer une salle, comment il peut le faire ? Il passe aussi par la page Facebook ?
Il y a la page Facebook, mais aussi, on a aussi un mail. Je suis en train de chercher l'adresse.
Nous attendons l'adresse mail des Gilets jaunes de la 23 qui se réunissaient peut-être au passé tous les mercredis dans la salle d'activité du camping municipal du Sel, le camping de Ponty. Sandy est en train de chercher l'adresse mail. Si jamais vous avez une salle à proposer pour que ces Gilets jaunes continuent de se réunir et fassent vivre ce qu'ils appellent leur maison du peuple. Sandy va bientôt nous donner l'adresse internet, si elle la trouve. Sandy ?
Oui, c'est bon. C'est la23gj.ucel@gmail.com. On a mis cette adresse exprès pour avoir des communications avec l'extérieur. On a notre page Facebook qui s'appelle aussi Colère Corrézienne et on a le groupe aussi, en plus.
Sandrine, Sandy, Patrick, Jean-Michel, merci à vous d'être venus nous parler de votre quotidien, de vos actualités. Désagréable, pour le moins pour vous. Aujourd'hui, on espère rapidement avoir de vos nouvelles. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur les ondes de Radio Vassivière, 88.6, 92.3. Bye bye.